France Inter.
Bonsoir à tous. Le procès symbole du mouvement MeToo, Harvey Weinstein, 4 ans après, l'une des condamnations du producteur est annulée à New York. On vous explique pourquoi. L'Europe peut mourir d'elle-même. Les mots d'Emmanuel Macron dramatisent l'enjeu des prochaines années, des prochaines semaines aussi, sans doute. Deuxième discours de la Sorbonne aujourd'hui. Les élections européennes, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous êtes impliqué? C'est le thème du téléphone sonne juste après ce journal. Vos questions au 01 45 24 7000. Kenji Girac, il a simulé un suicide pour faire peur à sa compagne. Il s'est tiré dessus volontairement, conférence de presse du procureur de Mont-de-Marsan aujourd'hui. Nous sommes en Espagne où le Premier ministre réfléchit à démissionner à cause d'une enquête visant sa femme. Et puis la mort de Laurent Canté, Palme d'Or 2008, avec Entre les murs, l'un des plus grands films sur l'école. Il avait 63 ans.
France Inter.
Sa condamnation à 23 ans de prison en 2020 avait été la première victoire du mouvement MeToo. Harvey Weinstein, le producteur de cinéma déchu, accusé de violences sexuelles par une centaine de femmes, une déflagration à Hollywood et dans le monde entier. La cour d'appel de New York vient pourtant de casser cette condamnation. Bonsoir Loïc Loury.
Bonsoir Hélène.
Vous êtes en direct de New York. Les juges estiment que le producteur n'a pas eu droit à un procès équitable.
Oui, absolument. Décision prise par les juges à 4 contre 3. Et cela 4 ans après la condamnation d'Harvey Weinstein à l'issue d'un procès retentissant. À l'époque.
Loïc Loury, en direct de New York, que nous avons perdu, que nous espérons retrouver. En attendant de l'entendre, écoutez peut-être l'une des premières réactions à cette annulation de condamnation. Ashley Judd, c'est la toute première actrice à avoir formellement accusé Harvey Weinstein auprès des journalistes du New York Times à l'époque, ceux qui avaient lancé l'affaire. Écoutez ce qu'elle dit de l'annulation de cette condamnation ce soir.
Aujourd'hui est un jour comme n'importe quel autre dans la vie des femmes américaines. Les violences sexuelles des hommes font irruption dans nos vies et les détruisent. Ces 4 juges de la Cour de New York ont voté pour annuler la condamnation d'Harvey Weinstein pour crimes sexuels. C'est cela être une femme en Amérique. Vivre au milieu des hommes qui revendiquent des droits sur nos corps. La décision prise aujourd'hui est une trahison institutionnelle.
Traduction assurée en direct par Alexandra Dubouchon. Merci à vous Loïc Loury, qu'on n'a pas encore retrouvé en direct de New York. On essaiera peut-être plus tard sur cette annulation de condamnation. Harvey Weinstein reste tout de même en prison puisqu'il est condamné par ailleurs dans un procès qui avait eu lieu à Los Angeles il y a quelques années.
Emmanuel Macron est donc revenu parler d'Europe à la Sorbonne.
7 ans après un premier discours qui avait marqué, l'Europe a changé, la guerre en Ukraine a mobilisé et uni les Européens comme elle les a menacés. Et à quelques semaines des élections, le 9 juin prochain, les oppositions ont vu dans le discours du chef de l'État un discours de campagne, Maxence Lambrec.
Il leur a consacré ses derniers mots après 1h45 d'exposé détaillé.
Tous les nationalismes à travers l'Europe n'osent plus dire qu'ils vont sortir de l'euro et de l'Europe. Au fond, ils proposent plus de sortir de l'immeuble ou de l'abattre. Ils proposent juste de ne plus avoir de règles de copropriété, de ne plus investir, de ne plus payer le loyer. Et ils disent ça va marcher.
Des propos sans doute in fine décomptés du temps de parole de sa candidate qu'il appelle à brandir le drapeau aux 12 étoiles.
Le risque, c'est que tous les autres sont en train de devenir timides. La réponse n'est pas dans la timidité, elle est dans l'audace. La réponse n'est pas dans le constat de dire ils sont en train de monter partout. Elle est dans se dire on a le choix. Cette année, les Britanniques vont choisir leur avenir. Les Américains vont choisir leur avenir. Le 9 juin, les Européens aussi.
Et il a trouvé pour cette élection un slogan bien plus fort que le besoin d'Europe qui apparaît pour l'instant sur ses tracts.
Notre Europe, aujourd'hui, est mortelle. Elle peut mourir.
Pour survivre, elle doit à ses yeux se simplifier, s'armer, massivement investir, protéger ses frontières, avec pour contre-modèle le Royaume-Uni qui compte expulser ses migrants vers le Rwanda.
Nous sommes en train de créer une géopolitique du cynisme qui trahit nos valeurs et qui s'avérera totalement inefficace.
Cette charge contre les populistes est censée réveiller son camp et il ne s'arrêtera pas là.
Vive l'Europe.
Demain, débat avec des jeunes à Strasbourg et bientôt une action de campagne officielle.
discours suivi par Maxence Lambrecht. L'invasion russe en Ukraine a fait avancer l'idée d'une Europe de la défense. Le chef de l'État veut un nouvel emprunt commun, comme pour le Covid, mais cette fois pour financer l'effort militaire. Il veut la préférence européenne dans le spatial et la défense. Emmanuel Macron appelle aussi l'Europe à maîtriser ses frontières, souhaite une majorité numérique à 15 ans, moins prolixe sur le climat. L'objectif de décarbonation, dit-il tout de même, doit être intégré aux missions de la Banque Centrale Européenne. L'écologie, la grande sacrifiée de ce discours, c'est désolé, la candidate écologiste Marie Toussaint, la chef de file des députés RN Marine Le Pen, n'y voit que des gesticulations quand le candidat Jordan Bardella, tête de liste pour les européennes, dénonce ce qu'il estime être une intrusion du président dans la campagne.
Le président de la République a pris le parti d'intervenir directement et personnellement dans une campagne électorale. Le fait d'intervenir ainsi acte un engagement personnel et direct, un engagement symbolique et éminemment politique. Or, qui dit engagement politique et personnel dit nécessairement responsabilité politique. On ne peut pas en effet prétendre participer à un tour de table, à une partie, miser son crédit et expliquer ensuite qu'on n'était pas concerné quand le vent semble tourner. En clair, si la liste d'Emmanuel Macron devait perdre cette élection, c'est-à-dire si elle était distancée par la liste d'opposition, le président de la République, chef de la majorité, non seulement minoritaire mais défaite, devra en tirer toutes les conséquences. La conséquence concrète et immédiate, nous l'avons dit, devra être la dissolution de l'Assemblée nationale.
Jordan Bardella qui présentait son programme pour les européennes. Aujourd'hui, conférence de presse sans questions, suivie par Élodie Forêt. Il y a un mois, le Premier ministre promettait une grande initiative pour mieux prévenir les accidents du travail. Aujourd'hui, les syndicats, d'une seule voix, écrivent à la ministre du Travail pour dire l'urgence à agir. Rappelez aussi que la suppression des CHSCT, les commissions d'hygiène et de sécurité au travail, n'a pas aidé à la prévention. Il y a 2 morts au travail par jour en France. La CGT organisait aujourd'hui à Paris une action symbolique avec les associations de familles de victimes. Caroline Dilly a perdu son fils de 23 ans. Il était couvreur à Tours et il a fait une chute de 13 mètres.
Je l'ai appris par un coup de fil un lundi soir. On avait passé le dimanche tous ensemble. On avait passé un dimanche merveilleux avec plein de projets d'avenir et plein de promesses de se revoir. Et le lendemain soir, la gendarmerie à 19h m'a appelé pour m'annoncer le décès de mon fils. Un coup de fil et votre vie bascule. Et voilà. Par exemple, j'ai hérité de mon fils, donc je vous laisse imaginer. Les familles se retrouvent vraiment très seules. Il y a un vrai silence autour des circonstances. Je me revois appeler l'inspection du travail 8 mois après le décès de mon fils pour lui demander l'heure de l'accident et elle a refusé de me donner l'information. J'avais besoin d'entendre que mon fils n'avait pas souffert. L'accident mortel est considéré comme presque du normal, malheureusement, dans notre société. C'est les risques du métier. L'employeur était poursuivi pour homicide involontaire. Maintenant, voilà, c'est le tribunal qui décidera.
Un témoignage recueilli par Romaric Caillé. Le chômage se stabilise, une très légère baisse, 0,1% sur les 3 premiers mois de l'année, selon les chiffres du ministère du Travail. Aujourd'hui, après 2 trimestres de hausse, la crise de l'immobilier ne sera pas sans conséquence. Tout de même, le promoteur Nexity annonce ce soir la suppression de plus de 500 postes. En Mayenne, c'est parce qu'ils n'ont toujours pas reçu leur salaire du mois de mars que les chauffeurs de la société ExpoTrans exercent leur droit de retrait depuis une semaine. Le trajet des enfants en situation de handicap est à l'arrêt et ils ne semblent pas prêts de reprendre parce que la société ne répond pas à ses salariés. C'est le reportage d'Emma Jacob.
Dominique Deroche conduit des élèves en situation de handicap depuis 8 mois. Aujourd'hui, il exerce son droit de retrait, mais n'oublie pas que les enfants sont aussi des victimes de la situation.
Moi, mardi soir, j'ai laissé une gamine. Je lui dis, bon, je sais pas si on va se revoir. Elle était en larmes. Ça nous touche aussi, nous. On les adore. Moi, j'ai prévenu les familles et tout. Ils sont tout à fait d'accord avec moi. On va pas se lever à 5h du matin pour être payé, quoi.
Pas de salaire depuis un mois et demi et pas non plus de complémentaire santé. ExpoTrans n'a jamais souscrit de mutuelle d'entreprise pour ses employés. Une mauvaise surprise pour Daniel Cotier. La salariée a dû débourser 880 euros pour ses nouvelles lunettes de vue. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase.
J'ai soumis d'entamer moi-même peut-être une grève de la faim pour se faire comprendre. Ça fait 24 ans que je fais du transport scolaire. Je n'ai jamais vu ce genre de travail. On nous a vraiment envoyé dans la gueule du loup.
La responsabilité va donc à la région pour la salariée, car c'est elle qui a cédé le marché à ExpoTrans. Un avis que partage Julien Lecornec, le référent de l'entreprise en Mayenne.
C'est eux qui ont choisi ExpoTrans, c'est eux qui ont choisi du bas coût. Voilà le résultat.
Lui aussi est démuni. Avec sa femme, ils sont tous les deux salariés de la société.
Sur mon compte, il me reste 2 euros. Je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas.
Les employés sont en lien avec une avocate pour porter l'affaire devant les prud'hommes. Une cagnotte en ligne a également été créée pour leur venir en aide.
Au reportage France Bleu Mayenne, le mouvement touche aussi des salariés de plusieurs autres départements dans Loir-et-Cher, l'Aisne ou encore dans les Côtes d'Armor.
Et la suite, hein.
Kenji Girac s'est blessé lui-même lundi à Biscarrosse. Le chanteur, qui avait d'abord parlé d'un tir accidentel, a tenté d'expliquer son geste aux enquêteurs. Conférence de presse du procureur de Mont-de-Marsan cet après-midi.
Cette impulsion a consisté pour lui à vouloir faire peur à sa femme, l'impressionner. En quelque sorte, il a simulé un suicide. Donc à ce stade de l'enquête, et sauf élément nouveau, un tir qui aurait été réalisé par un tiers est donc écarté. Nous avons donc un tir qui a été provoqué volontairement par Kenji Girac.
Olivier Janson, procureur de la République de Mont-de-Marsan. Kenji Girac assume donc son geste tout en le regrettant fortement. Les analyses ont permis de confirmer qu'il était fortement alcoolisé et qu'il a pris de la cocaïne pendant la soirée. Boire de l'eau avec du charbon, ça a été un conseil du mouvement La Grande Mutation pour soigner le cancer de l'un de ses adeptes. Le procès de 6 cadres de cette secte se poursuit à Paris en l'absence du gourou mort en 2018. Et l'interrogatoire des prévenus vient de commencer. Bonsoir Charlotte Piret.
Bonsoir.
On découvre, comme celui du fondateur qui était chercheur au CNRS, des prévenus au CV impressionnants.
Oui, une thèse en biologie génétique, un post-doctorat sur les éléments non canoniques de la molécule d'ADN. Jérôme Lacoste, barbe et cheveux longs retenus par une barrette, achève une carrière d'enseignant-chercheur. De quoi mettre en confiance de nombreux adeptes, relève la présidente. Je n'ai jamais été une caution scientifique, se défend le prévenu à la barre. Moi, je cherche juste la connaissance par la méthode de la radiesthésie. Lui, qu'on a entendu peu avant, lors d'une systémie, ses conférences payantes données par le mouvement sectaire, enregistrées et diffusées à l'audience, les cadres de la grande de mutation y délivrent leur découverte. Selon eux, le céleste transterrestre par rapport à l'infraterrestre au niveau minéral est en train de se séparer de manière générique. Plus tard, sur l'enregistrement, une adepte confesse ne pas comprendre. Mais Claire, lance l'une des prévenues, d'atome en atome, c'est l'émergence. Sèche tes larmes, Claire. C'était le continent perdu. C'est donc pour cela que le code 010-100-1000 qu'on vous demande de justifier, c'est votre nom. Dans la salle d'audience, pleine à craquer, le public semble largement acquis à la cause de la grande mutation. De toute façon, soupire une femme en sortant, le jury ne pourra pas comprendre.
Le procès doit durer jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Compte rendu d'audience signé Charlotte Piret. La France prévoit de tester dès le début de l'année prochaine 4 ou 5 projets de stockage de CO2. C'est une annonce du ministère de l'Industrie ce soir dans d'anciens gisements pétroliers, fait-il savoir, pour accélérer la décarbonation de certaines industries. Le réchauffement climatique, jusqu'à quel point les eaux minérales naturelles risque-t-elle de souffrir du risque de contamination avec le réchauffement des températures? Cette fois, l'État a contraint Nestlé de détruire 2 millions de ses bouteilles de Perrier et l'un des 7 forages de l'usine de Vergès dans le Gard est à l'arrêt sur décision du préfet parce que contaminé à 2 bactéries. Le site fait vivre toute la commune et même au-delà. Et sur place, on est partagé entre inquiétude et attachement à l'entreprise. Rémi Brancato est notre envoyé spécial.
À la sortie de l'usine, aucun salarié ne s'exprime.
Il y a un service presse pour répondre à ça, je suis désolé.
Nestlé Waters se contente d'un communiqué. Un de ses forages a été contaminé par des bactéries d'origine fécale. Les bouteilles vendues peuvent être consommées, dit l'entreprise. À la sortie du musée Perrier, pas d'inquiétude.
Ils en parlent d'ailleurs dans le musée. Ils disent qu'ils prennent soin de l'environnement de façon à ce qu'il n'y ait pas de contamination autant que possible.
2 millions de bouteilles ont d'ailleurs été détruites.
C'est un accident de parcours, c'est résolu.
Sylvette, en promenade à quelques encablures avec son ami Christiane, est très attachée à l'entreprise.
Mon père y a travaillé, ma sœur. On a un magnifique stade, on a des infrastructures bien dotées ici grâce à Perrier.
Une institution à laquelle on n'échappe pas ici.
Vous buvez encore du Perrier ?
C'est fou, hein ?
Jusque dans le bureau de la maire de la commune de 6000 habitants, Pascal Fortuna Deschamps, qui a pourtant appris la nouvelle dans les médias et qui a pu depuis joindre la directrice du site.
Toute l'eau qui a été produite avant et qui est produite aujourd'hui n'a pas de problème. Elle m'a assuré qu'il n'y avait pas de risque pour la santé publique. À aujourd'hui, je la crois. Mais en tout cas, Perrier, c'est entre 800 et 1000 personnes aujourd'hui qui travaillent. J'attends vraiment des informations de la préfecture pour assurer la population qui quand même s'inquiète pour les emplois et pour l'avenir de la marque.
Nestlé Ashley Waters assure que des contrôles sont en cours avant d'envisager une réouverture du puits contaminé.
Reportage Rémi Brancato. Le réchauffement climatique, l'explication la plus probable, disent les scientifiques aujourd'hui, aux pluies diluviennes qui se sont abattues la semaine dernière sur les Émirats Arabes Unis.
Et donc, nous retournons à New York.
Où on a retrouvé Loïc Loury pour nous expliquer, Loïc, l'annulation de cette condamnation d'Harvey Weinstein. Il y a 4 ans, premier procès symbolique du mouvement MeToo. Il est accusé de violences sexuelles par une centaine de femmes. Et la Cour d'appel de New York, Loïc, vient aujourd'hui pourtant de casser cette condamnation, estimant que le producteur n'avait pas eu droit à un procès équitable. Loïc Loury, en direct de New York, que nous avons de nouveau perdu.
Décidément,
je suis navrée, on n'aura pas l'explication précise de Loïc. Sachez tout de même que les juges ont estimé qu'on avait fait témoigner énormément de femmes à ce procès, plus que celles qui avaient formellement porté plainte et été considérées, en tout cas si on fait un parallèle avec le droit français, comme étant partie civile dans ce procès, et que de ce fait, le procès d'Harvey Weinstein n'avait pas été jugé équitable. Il y aura donc un procès en appel. L'actualité à l'étranger nous emmène aussi en Espagne ce soir, où le Premier ministre Pedro Sanchez met son poste en jeu. Il réfléchit à démissionner depuis hier et la révélation dans la presse d'une enquête visant sa femme pour corruption. L'opposition l'accuse de se donner en spectacle. Le parquet vient de demander le classement de l'enquête. Marie-Hélène Ballestero pour le résumé de cette folle journée.
C'est la cacophonie en Espagne. Alors que le chef du gouvernement a décidé de suspendre ses activités afin de réfléchir, les représentants de la classe politique espagnole n'ont cessé de manifester leur opinion ces dernières heures. En premier lieu, Alberto Núñez Feijóo, chef du Parti Populaire, le principal parti de l'opposition, qui a accusé Sanchez de se donner en spectacle aux yeux du monde. D'après Feijóo, le socialiste a mis en marche une opération de survie politique en cherchant à mobiliser les gens sur la base de la compassion, car il ne peut pas le faire pour sa gestion. Dans le camp des socialistes et des formations qui soutiennent le gouvernement, le son de cloche est bien différent. Ils apportent tous leur soutien au chef de l'exécutif et ne veulent surtout pas qu'il démissionne. Mais que veut vraiment Sanchez ? Difficile de le savoir à cette heure-ci, car selon son entourage, il est profondément affecté. C'est lui qui a rédigé la lettre hier et depuis, c'est le silence absolu. Selon la constitution espagnole, Sanchez pourrait envisager 3 types de scénarios. La démission, se soumettre à un vote de confiance ou convoquer de nouvelles élections. Il lui reste moins de 4 jours pour prendre une décision.
Marie-Hélène Ballestero depuis Madrid. Au Proche-Orient, Israël intensifie ses frappes sur Rafah, tandis que depuis le Caire, l'ambassadeur palestinien fait savoir qu'entre 80 000 et 100 000 Palestiniens sont arrivés en Égypte depuis le début de la guerre.
Il dessinait un cinéma sensible à fleur de peau.
C'est l'hommage du Festival de Cannes au réalisateur Laurent Canté ce soir. Réalisateur mort, malade à 63 ans, cinéaste à la hauteur de ses sujets, au plus près du réel. Bonsoir Corinne Pellissier.
Bonsoir.
Et c'est sa Palme d'Or pour Entre les murs en 2008, sans doute l'un des plus grands films sur l'école qui lui a assuré une notoriété internationale.
Voilà, une plongée étonnante dans une salle de classe, dans un collège du 20e arrondissement de Paris, son plus grand succès au cinéma, adapté d'un roman de François Bégodeau sur un face-à-face tendu entre un prof et ses élèves, 1,5 million de spectateurs, un César, une Palme d'Or et une nomination aux Oscars pour un cinéaste et un homme qui avait toujours su, en matière de social, lier le geste à la parole, engagé dans la vie aux côtés des sans-papiers ou dénonçant dans ses films la violence des rapports humains, du monde du travail, dans Ressources humaines en 2000, sur un diplômé, Jalil Lesper, dans une école de commerce, ou dont son dernier film Arthur Rimbaud sur l'affaire Mehdi Mekhlat et les réseaux sociaux.
Non, c'est pas que des tweets, ils sont relayés partout.
Ces messages datent du moment où j'écrivais sous un pseudonyme.
Toujours avec ses personnages, cette obsession de trouver sa place.
J'ai le sentiment qu'en fait, ils sont confrontés à un monde qui est beaucoup plus violent que celui qu'on a pu connaître nous, et à des extrémismes de tous bords qui leur proposent des solutions magiques à leurs problèmes, mais aussi un peu de piment dans leur vie.
Une fibre humaniste que Laurent Canté tenait de sa famille et de son père instituteur, à l'origine de son goût pour l'image. Il se rêvait adolescent dans la peau d'un reporter photo, mais avait fini par trouver sa voie sur les bancs d'une école de cinéma à l'IDEC, aux côtés notamment de Robin Campillo, devenu son ami, son complice d'écriture et de montage. Laurent Canté, c'était d'abord un esprit d'équipe, le goût du travail en bande et de la transmission, cofondateur à l'heure des premières plateformes de VOD, de la Cinéthèque, qui possède aujourd'hui l'un des plus beaux catalogues de curation et de vidéos de patrimoine. Il est recommandé Bergman, Cassavetes, Bresson, Fellini, Renoir et continué ces derniers mois à travailler et préparer entre deux chimios son prochain film.
Corinne Pellissier pour cet hommage au réalisateur Laurent Cantet. Le tourisme doit changer, les mots du maire de Venise aujourd'hui. Première ville touristique à imposer un droit d'entrée payant au centre-ville, 29 jours seulement dans l'année. Ça servira de test. Plusieurs centaines de personnes ont tout de même manifesté derrière une grande banderole ce matin disant non aux tickets, oui à des logements et des services pour tous. Qu'il faudra faire avec les touristes l'été prochain à Paris, attendu très nombreux pour les Jeux Olympiques. Ce ne sera pas simple pour ceux qui travaillent, qui devront circuler comme les livreurs. Voici une application lancée pour eux, J'optimise. C'est son nom officiellement lancé ce matin, mise en ligne demain. Bonsoir Victor Vasseur.
Bonsoir.
Vous avez pu la tester, est-ce que c'est efficace?
Oui, c'est ultra précis. La quasi-totalité des zones de livraison parisiennes et de Saint-Denis sont identifiées dans la plateforme. Cette application permet d'abord d'adapter ses futures livraisons, car elle prend en compte les restrictions de circulation et l'état du trafic. Jean-Philippe Hélier est le chef de projet numérique d'Interloop Plus, à l'origine de cette plateforme.
Des entreprises nous ont dit, on a déjà commencé nous à planifier nos tournées, parce qu'on avait sous les yeux la réalité du terrain, où on voyait vraiment où étaient nos clients et ceux qui seraient impactés par ces zones bleues, ces zones rouges, notamment au niveau des restrictions, puisque je rappelle que c'est 2h30 avant une épreuve démarre la zone bleue, la zone rouge, elle se finit 1h après l'épreuve, et il y a des sites où ça dure toute la journée.
Car il n'y a pas que les restaurants qu'il faut réapprovisionner, les hôtels, les hôpitaux, les pharmacies, les stations-service aussi. La plateforme J'optimise permettra aux livreurs de trouver les places de stationnement disponibles. Les itinéraires de livraison seront ensuite intégrés à Waze et Google Maps, explique Jean-André Lasserre, l'une des têtes pensante de la plateforme.
Et ce système de guidage en temps réel va permettre au conducteur d'aller très finement dans sa livraison, puisqu'on a des informations sur l'adresse du lieu de destination, quelles seront les conditions de circulation, mais à la rue près, au créneau horaire près, dans les zones bleues et dans les zones rouges.
Il y a 5,7 millions de livraisons chaque semaine en Ile-de-France, 3,8 millions rien qu'à Paris. Toutes les entreprises pourront utiliser cette plateforme, elle est gratuite.
Merci beaucoup Victor Vasseur, et ceux qui travaillent à la RATP seront récompensés, 1 600 à 2 500 euros de prime proposés aujourd'hui par la direction aux conducteurs du métro ou du RER qui seront sur le pont.
Hélène Philly, merci beaucoup et à demain. Dans un instant, c'est le téléphone sonne, on parle des élections européennes ce soir. Un œil sur le ciel d'abord.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques. Devis et rendez-vous en ligne, tout simplement, sur euromaster.fr.
Élodie Calac, moins froid mais très encombré demain matin.
Oui, beaucoup de nuages, quelques averses, un petit peu de neige vers 1300 à 1500 mètres sur le massif central et les Alpes. Des averses plus fréquentes et parfois musclées de la Provence vers le sud de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Seulement quelques ondées, en revanche, de la Touraine vers le bassin parisien et les Ardennes. Et de belles éclaircies près des Pyrénées, sur le littoral du Languedoc-Roussillon et sur la Corse, avec des températures entre 3 et 10 degrés.
Et un risque d'orage aussi l'après-midi, Elodie.
Ce sera variable, oui, avec quelques éclaircies appréciables, mais quelques averses orageuses. D'ailleurs, une zone plus active circulera sur les régions de l'Ouest. Elle progressera vers la région parisienne et le centre-Val de Loire en fin de journée. Sur la Provence, la Côte d'Azur, le sud des Alpes, là aussi, des averses nombreuses. Et puis des températures en hausse, mais encore trop juste pour la saison. 12 degrés à Langres et Aurillac, 15 à Lille, Nantes, Limoges, 16 degrés à Paris, Lyon et Marseille, 17 de Bordeaux jusqu'à Toulouse et 19 degrés à Ajaccio.
Élodie Calac de Météo France, merci beaucoup.